Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé suffit.
Eh, tu cherches, hein?
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais qu'est-ce qu'il y avait des faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'octobre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prend son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Eh bien, une fois de plus, nous prendrons le temps, effectivement, de parler de l'actualité culturelle locale. Et puis, sur cette émission, nous allons faire un zoom plus précis sur la programmation famille et enfants.
Oui, puisque l'événement de ce mois, le cinquième Salon du Livre de Jeunesse à Évreux, qui se déroulera le week-end du samedi 18 et dimanche octobre à Évreux au Cadran. Et là, c'est vraiment une porte ouverte aux familles, aux enfants, pour rencontrer les auteurs et illustrateurs de la jeunesse d'aujourd'hui.
Nous aurons justement autour de nos micros Didier Dupont de la librairie BD Lib, Annie Falzini de la librairie L'Oiseau Lire et Antoine Joly, médiateur culturel à la médiathèque d'Évreux.
Voilà. Après, Cécile, tu as rencontré une compagnie belge de cirque.
Exactement. On les a, pas accueillis en plateau, mais on les a vus au téléphone puisqu'ils sont sur la route pour venir nous retrouver. Ils arrivent ce week-end. C'est la compagnie Circo Ripopolo avec un spectacle qui s'appelle Arrovecchio dans les campagnes autour d'Évreux ce week-end.
Cécile, tu as également été te promener dans l'école, à l'école Victor Hugo à Évreux.
Avec toi, j'y sais exactement. Nous sommes allés rencontrer la classe de CM2 de l'école Victor Hugo pour un petit retour sur un spectacle qu'ils ont pu découvrir au mois de septembre à la scène nationale.
Nous parlerons également de l'agenda du mois d'octobre, une liste non exhaustive, en tout cas une liste de ce qui a retenu notre attention. Nous terminerons notre émission avec un traditionnel extrait de film, pas forcément, cette fois-ci ce sera une série, mais nous y reviendrons. Mais tout de suite, sans plus attendre, je vous propose que nous commencions avec notre traditionnel extrait sonore OVNI, un moment de vie en fait.
Non.
Vous êtes...
On est 5.
Voilà, c'était un extrême moment de vie. Nathalie, du coup, je crois avoir reconnu ta voix. Est-ce que tu peux nous dire quel était ce moment de vie?
Oui, c'était vraiment l'entrée, la billetterie. Là, on a posté le micro à la billetterie de l'entrée du spectacle Out dans la salle des fêtes de Saint-Sébastien de Morsan. Et voilà, on accueillait le public et vous avez pu entendre le déchirement du billet. Parce que là, c'est une billetterie manuelle que nous opérons dans les escapades où nous accueillons les habitants qui arrivent spontanément. Pour voir le spectacle dans le lieu. Donc voilà, c'était le petit son du billet, voilà, que je voulais vous faire entendre aujourd'hui.
un son qui disparaîtra à terme, hein, maintenant que tout est numérique.
Oui, voilà, on aura l'iPhone ou le portable qui passera dans la machine. Bah là, on a encore le petit bruit du billet, et puis les billets qu'on laisse dans la poche, qu'on retrouve dans sa veste après, ou dans le sac, ou hop, qui s'envole par terre. Bon, voilà, c'est la vie du petit billet.
Voilà, qui peut servir notamment de marque-page.
Exactement, ou de souvenir.
Ou de souvenir, ou les deux.
Ou les deux.
Eh bien, nous proposons la première pause musicale. Un petit mot, Nathalie, sur ce choix musical qui est directement en lien avec la programmation jeunesse et notamment la programmation du forum, du salon, pardon, du livre jeunesse.
Oui, j'ai choisi un extrait de Bulle et Bob dans la cuisine de Nathalie Tual, qui va se présenter justement le samedi 18 octobre dans le cadre du Salon du Livre. Et c'est une artiste, comédienne, conteuse, musicienne. Elle a vraiment toute une série de cette histoire de Bulle et Bob en livre et contre enregistré. Donc c'est à la fois un conte et à la fois de la musique. Et c'est vrai que sur la scène, c'est assez rythmé, vivant et très communicatif avec le public. Donc voilà, je voulais vous faire entendre un premier extrait qui s'appelle « Mercredi, c'est mercredi » de Bulle et Bob.
C'est ça, quelle bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est, bonne idée, c'est, bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est, bonne idée, c'est, bonne idée, c'est ça. C'est vraiment croustillant quand on a ce qu'il faut de cuisiner dedans la maison bien au chaud, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est, bonne idée, c'est, bonne idée, c'est ça. C'est vraiment amusant de faire de nos petits doigts des mets appétissants, bons et beaux à la fois, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est, bonne idée, c'est, bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est ça. Quelle bonne idée, c'est, bonne idée, c'est, bonne idée, c'est ça.
Alors, premier sujet de notre émission de ce mois d'octobre, nous avons souhaité vous présenter et inviter les organisateurs du 5e salon du livre de jeunesse d'Evreux. Alors, bonjour à Didier Dupont.
Bonjour.
Bonjour à Annie Falsini.
Bonjour.
Bonjour à Antoine Joly. Alors, bonjour. Je vous présente dans l'ordre Didier Dupont, libraire BD Lib Evreux, Annie Falsini, Oiseau Lire Evreux, pour la librairie, et Antoine Joly à la médiathèque d'Evreux, responsable culturel, on va dire, de l'action culturelle à la médiathèque. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau pour nous parler et présenter le 5e salon Livre Jeunesse Evreux qui accueille là plus de 50 auteurs et illustrateurs. Mais pas seulement. Alors moi j'avais envie de poser simplement une question peut-être très généraliste au départ, mais ça vient d'où cette idée de ce salon? C'est une idée collective? C'est une idée imposée? Voilà, comment s'est fait cette rencontre déjà entre les acteurs littéraires de la ville et peut-être la ville en tant que telle?
Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée en vérité.
Oui, Annie.
Je suis allée voir Madame Kaya. Si le salon a 5 ans, ça doit faire 7 ans. J'ai expliqué le projet en disant que j'avais envie que les livres sortent des librairies pour que les enfants qui n'osent pas avec leurs parents franchir le seuil d'une librairie aient accès aux livres. Et j'ai présenté un projet avec des rencontres d'auteurs, des accueils de classe, ce qui s'est petit à petit mis en place. Et j'ai attendu 2 ans une réponse. Et un jour, j'ai appris que ça y est, ça démarrait. Et après, bien sûr, il y a eu tout ce qui s'est mis en place avec les différents partenaires.
C'est important au bout d'un moment que le livre sorte de la librairie ou éventuellement de la médiathèque. Antoine, vous qui ne travaillez plus sur la médiathèque, c'est important au bout d'un moment que ce ne soit pas juste une démarche de « je suis lecteur, je vais où sont les ouvrages » et au contraire dire « je vais emmener les ouvrages là où sont les enfants ». Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais quelle est l'importance en fait d'aller à la rencontre du public ?
Alors, sur cette question, c'est vrai que cette mission, aller chercher le public, est propre aux bibliothèques de lecture publique et aux libraires, comme Annie le disait il y a quelques minutes. Les bibliothèques, depuis plusieurs années, mènent des actions, on peut dire, hors les murs, donc où le personnel se déplace en dehors de la structure pour proposer des lectures, proposer des livres. Par exemple, le bibliobus de la ville en est l'exemple même. Alors, pour rebondir avec ce qu'Annie dit, c'est vrai que ça s'est fait ensuite, à partir du moment où le projet a été acté, ça s'est fait naturellement, ce partenariat entre les bibliothèques et les libraires, autour de cette même mission, donc faire découvrir la lecture et le livre.
J'imagine que l'éducation nationale, en tout cas l'école primaire, est un bon relais de travail. J'imagine, enfin, je sais pas, moi j'ai une enfant par exemple qui dans sa classe, à l'occasion du salon, travaille en amont sur le thème justement.
Ben, je pense qu'il y a des rencontres qui sont organisées par la médiathèque. Les auteurs que l'on invite, d'abord souvent, maintenant, de plus en plus, ne viennent pas bénévolement sur le salon, ne viennent pas juste pour des dédicaces et demandent une rencontre en amont. Donc ces rencontres sont faites dans les écoles et là, particulièrement pour le salon, vous emmenez les auteurs, dans les illustrateurs dans les écoles.
Oui.
Voilà. Et il faut savoir qu'ils demandent ça parce qu'une journée d'auteur, c'est rémunéré plus de 400 euros la journée. Donc ça leur permet aussi de vivre. Hein. Les salons du livre permettent cela aussi.
C'est désacraliser peut-être aussi un petit peu le livre, l'auteur, le rendre abordable. J'imagine qu'un enfant, quand il a rencontré un auteur, voit l'ouvrage totalement différent. Totalement différemment, pardon.
Oui, si je peux intervenir justement là-dessus. En plus d'emmener, on revient sur un point important, en plus d'emmener le livre en dehors des librairies et de la médiathèque, c'est vrai que la rencontre avec les auteurs, c'est quelque chose d'assez important, d'assez fascinant pour des jeunes enfants. On le voit souvent. Les enfants reviennent le week-end, ceux qui ont rencontré dans les classes reviennent fréquemment revoir l'auteur lors du salon. Et cette rencontre, on le voit toujours, ça reste un moment marquant pour eux, un moment un petit peu à part. Ils mettent une personne vraiment derrière un livre. Ils sont habitués à avoir des livres en main, mais cette rencontre avec celui qui le fait, qui l'écrit ou qui le dessine, c'est quelque chose pour eux de très important. On voit, les enfants restent souvent très, très marqués par cette rencontre. Donc il y a la partie également auteur qui est très importante sur le salon et tout ce qui est organisé par la médiathèque en amont, les rencontres scolaires, ça crée un vrai événement autour du livre.
Et puis moi, il y a cette notion de désacralisation, je trouve, parce que j'ai croisé moi des enfants en classe, ou hors classe même, qui suite à ce salon du livre, écrivaient leur livre. Enfin, très clairement, des enfants qui disaient, bah, finalement, j'ai rencontré l'auteur, il est fait comme moi, enfin, même si c'est un adulte, mais il est fait finalement comme quelqu'un d'ordinaire. C'est pas un super-héros, finalement, cet auteur. Donc finalement, écrire est à ma portée aussi. Enfin, j'ai senti, moi, cette notion de désacralisation un petit peu de la lecture et puis parfois même de l'écriture.
Mélanie Rutten, qui est venue il y a 3 ans et qui a vraiment séduit plein de gamins, le lendemain, le samedi matin, quand elle est venue, elle avait rencontré des enfants le vendredi. Il y a une gamine qui est venue avec ce qu'elle avait écrit, le livre qu'elle avait fait le soir même après la rencontre.
J'ajoute également que les auteurs, illustrateurs invités tout le long week-end, j'ai constaté qu'ils étaient très accessibles. Hein, pour voilà, par la configuration de la salle, par aussi toute la scénographie avec les livres qui est mis en place, l'auteur est accessible pour à la fois les enfants et puis également les parents. Et c'est vrai que les rencontres, j'ajoute que il y a des rencontres, donc une dizaine de rencontres le vendredi à Évreux et également en dehors d'Évreux, par exemple à Saint-Sébastien de Morsan.
Alors, j'imagine que justement ce moment fort sur le livre en destination de la jeunesse doit peut-être aussi avoir des actions, je dirais, en aval et en amont, mais aussi peut-être amener des actions auprès de familles, d'associations, d'écoles. Est-ce que vous sentez une poursuite dans l'année de ce travail, de cet événement. Comment ça se développe tout au long de l'année? Parce que ça, c'est vraiment le vrai moment fort. Mais après, est-ce que vous mesurez les actions? Est-ce que vous êtes en relation avec les actions qui peuvent se mener tout le long de l'année et qui ont émergé de ce Salon du Livre?
Moi, je le sens surtout après avec les enfants qui reviennent et qui reviennent chercher les livres des auteurs, illustrateurs qu'ils ont rencontrés ou qu'ils ont découverts sur le salon. Tout au long de l'année, il y a tellement d'actions aussi autres sur Évreux avec les dévoreurs de livres, les croqueurs de livres, qu'il y a plein de choses qui sont mises en avant et ce contact avec le livre et avec les auteurs se fait tout au long de l'année. Donc, c'est difficile d'évaluer ce qui est par rapport au salon ou par rapport aux actions menées.
Oui, c'est vrai, parce que toute l'année, comme tu le disais, il y a différents prix littéraires, les Voreurs, les Croqueurs, Corzac. Donc, finalement, on peut dire que ce salon est le final, finalement, de toutes les actions qui sont menées tout au long de l'année, à la fois par les bibliothèques et par les libraires, en partenariat ou non, puisque dans les librairies, il y a également des dédicaces des auteurs invités. Et je tenais à dire aussi, puisque ça draine des milliers de personnes, ce salon, ce qui est intéressant, c'est que on va en dehors du, ça rayonne au-delà d'Évreux. Ça, c'est, on touche vraiment un public très très large et nombreux.
Alors, si on se penche un peu plus sur le contenu même de ce salon du livre, de cette cinquième édition. 50 auteurs et illustrateurs. Comment vous travaillez? Est-ce qu'il y a une thématique que vous choisissez chaque année, du coup? Parce que quand même, l'univers du livre de jeunesse, des auteurs et des illustrateurs, est quand même, je trouve, en développement. Il y a beaucoup de propositions. Alors, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire partager au public, aux enfants, aux familles? Est-ce qu'il y a une ligne comment ça se construit?
Alors, le thème du salon cette année, c'est « Et si on redessinait le monde ?» Mais c'est plus un thème pour les actions, le concours de dessin qui a été organisé par la médiathèque. Moi, je sais que je mettrai quelques livres qui permettent de réfléchir autour du thème. Mais c'est plus pour donner un thème au salon. Inviter les auteurs, si on veut rester sur le thème, c'est très restrictif. Donc déjà, trouver 50 auteurs qui veulent bien se déplacer, c'est galère, je pense, pour Didier comme pour moi, oui. Et comme chez Gibert. Donc non, on ne reste pas. Je vois à Vernon, où il y a un salon sur un thème, il y a 5-6 auteurs jeunesse dans ces cas-là. Hein. C'est quand on reste très strict sur le thème.
Oui, et aussi, c'est cette diversité des auteurs. Alors, il y a des... les libraires proposent des illustrateurs. Alors, pour découvrir, à la fois que vous appréciez par la qualité du texte, du dessin, et aussi ça va de pair avec tout ce qui s'ensuit, ce qui a été fait en amont.
Alors, il y a quelque chose d'assez atypique sur le Salon du Livre d'Évreux, c'est qu'il y a quand même une programmation de spectacles pour le jeune public et à voir en famille durant tout le salon, en fait, tout au long de la journée. Pourquoi ce choix? Enfin, elle est toute bête ma question, mais tous les salons ne font pas ça. Et
beaucoup de salons jeunesse le font quand même.
Ah, alors autant pour moi.
Non, oui, tout à fait.
De plus en plus, en fait, il est important de proposer un événement global. Faire venir seulement des auteurs, faire rencontrer les auteurs, on le ferait toute l'année dans la librairie, dans les librairies. Et je pense que le but de ce salon, pour toucher le plus de monde possible et justement attirer, comme le disait Annie ou comme disait Antoine juste avant, c'est de faire venir des gens qui ne viennent pas forcément dans les librairies ou à la médiathèque. Donc là, en proposant des spectacles, en faisant des partenariats avec le cinéma, en proposant vraiment des interventions dans les écoles avant, c'est le meilleur moyen de rassembler le plus de monde et justement de faire venir un public qui ne viendrait pas forcément de lui-même sur le livre.
Oui, les spectacles, c'est vrai ce que Didier dit. On a choisi aussi donc c'est plutôt vers la tranche 2-4 ans et ça commence dès le vendredi soir, donc samedi. Plus samedi et dimanche, et aussi avec depuis 2 ans un partenariat avec la scène nationale Évreux-Louviers qui propose un spectacle. Et là, on a voulu que ça soit au-delà de la tranche 4 ans, qu'on cible plutôt les 7 ans, voire plus. Donc cette année, un Moby Dick est proposé pour les 7 ans. Alors, le côté très pratique, les réservations sont ouvertes depuis mardi et les places sont à retirer à la médiathèque.
Et je crois que ce qui est important pour les spectacles, parce que moi, c'est ce que me disent aussi les gens qui y vont, c'est que ce sont des spectacles gratuits, ce qui est très, très rare.
J'ai une question toute bête à laquelle vous aurez sûrement une réponse. Plus globalement, est-ce qu'on peut lire à tout âge ? Est-ce qu'il y a un livre pour chaque âge ?
Oui, est-ce dès la naissance. Voilà. Les livres en noir et blanc de Tana Oban, puisque les enfants, jusqu'à 6 mois, ne voient pas les couleurs, mais juste les contrastes. Et j'ai vraiment... je vends plein de livres de Tana Oban. Et quand les gens ont testé, ils l'offrent après à chaque cadeau de naissance.
Donc voilà, ça c'était ma première question. J'imagine que vous êtes tous les trois d'accord. Dès la naissance, un livre, c'est pas déplacé.
Ah non.
Deuxième question, comment est-ce qu'on choisit un livre ? Parce que souvent, c'est la grande question. Aujourd'hui, des livres, on en trouve effectivement à la médiathèque où le personnel peut conseiller sur le choix de tel ou tel livre. Il y a des librairies, mais on trouve également dans un tas d'autres endroits où les choix sont peut-être un peu moins...
Moins qualitatifs.
Voilà, souvent. Je n'osais pas le dire, mais voilà. Mais en tout cas, on est face à une quantité d'ouvrages disponibles. Ils ne sont pas tous adaptés d'une à l'âge, ils ne sont pas tous de qualité équivalente. Comment est-ce qu'on choisit un livre pour des enfants ?
Eh ben, en venant demander conseil au libraire ou à la médiathèque. Je crois que j'ai pas d'autre solution.
Conseil, effectivement, dans ton conseil, il y a des gens qui l'ont lu déjà.
Voilà, oui.
Donc,
et nous,
libraires,
on les lit.
C'est vrai qu'il y a cette connaissance. Enfin, je pense que vous êtes confrontés quotidiennement à ça. Ou simplement, l'usager ou le client se présente en demandant, voilà, il précise la tranche d'âge. Et puis après, ça va avec des thématiques bien précises. Et ça, c'est le personnel et les libraires qui peuvent, par des conseils, et c'est ça aussi notre particularité, on le conseil pour faire découvrir, pour à la fois pour l'enfant, vraiment pour mettre en avant un support qu'on connaît bien.
Et puis ça rassure même souvent les parents, on parlait des enfants vraiment en jeune âge, ça rassure quand même beaucoup les parents des fois d'avoir le conseil d'un adulte aussi qui l'a lu. Parce que les enfants sont quand même assez informés. Des fois, c'est dans les cours d'école, ça parle, telle série est bien. Les parents n'ont pas toujours le temps de vérifier, de lire. Ils aiment bien avoir un conseil, savoir si telle série dont l'enfant leur parle est adaptée à l'âge, ces choses-là. D'où l'importance, voilà, de les aider dans ce choix.
Et aujourd'hui, il y a quand même un phénomène de taille. Je pense que la question a déjà dû vous être posée. Le numérique dans tout ça, parce que là, on parle du livre-objet, de la relation qu'on peut entretenir aussi avec son libraire, avec les acteurs littéraires d'une ville, les médiathèques, etc. Mais il y a quand même cet outil, ce petit écran qui est chez nous et qui nous permet d'avoir accès à plein d'infos, à parfois des livres moins chers, qui fait vraiment son entrée, puis qui peut, enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer quand on travaille dans le livre. Comment ça se gère ? Et puis, est-ce qu'on fait la place, du coup, au numérique sur un salon du livre de jeunesse aujourd'hui ?
On ne fait pas la place au numérique, mais la jeunesse est peu représentée dans le numérique. Et les livres ne sont pas moins chers, ce sont les livres numériques qui sont moins chers, puisque en France, Dieu merci, depuis 81, il y a la loi Lang qui fait que le livre est au même prix partout. Donc, même Amazon, désormais, ne peut plus faire 5% quand elle vend les livres, que nous, on fait à nos clients avec une carte de fidélité. Donc, ça, c'est important à savoir. Et bon, il y a quelques expériences de livres numériques pour enfants, mais ce qui est montré aussi, c'est qu'il faut que ce soit très ludique. Ce n'est pas vraiment le livre, parce qu'un gamin, ça ne lui apporte rien de ce fait. Alors, c'est intéressant, par contre, pour les non-voyants, les malvoyants, parce qu'on peut agrandir le texte.
Après, c'est vrai qu'au niveau jeunesse, enfin, vous me dites si je me trompe, mais il n'y a pas eu encore de véritables choses probantes sur finalement le passage au numérique avec les illustrations. Là, 95% du numérique, c'est du texte. Après, dans la bande dessinée, moi, je n'ai pas cette... j'ai lu plusieurs articles. La bande dessinée ou les ouvrages illustrés pour enfants ne sont pas... Là, on en est encore à des stades... d'expérimentation, il n'y a pas véritablement de franc succès là-dessus. En tout cas, on reste le support papier pour les ouvrages jeunesse reste encore très important. Et... À la médiathèque, on a proposé depuis un an des liseuses en prêt. Et donc la particularité, donc là c'est vraiment pour les adultes, c'est alors des textes qui sont tombés dans le domaine public, des grands classiques, mais aussi ce qui nous démarque, c'est proposer les rentrées littéraires. Voilà, ça fonctionne bien, mais on s'arrête à l'adolescence, on ne va pas en dessous.
Et puis si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que dans la bande dessinée, il y a toujours cet aspect collection, collection livre-objet. Donc pour l'instant, l'œuvre numérique, on pourrait refaire l'objet là, d'une émission complète, mais elle n'est pas encore complètement adaptée à un format de liseuse non plus, et puis à ce que recherchent les gens. Les ados vont lire pas mal de mangas, peut-être en téléchargé, mais ils continuent de suivre la série qu'ils aiment bien. Donc voilà, l'offre numérique n'est pas encore vraiment complète et pas encore vraiment à maturité sur tout ce qui est illustration, dessin, ces choses-là.
Bien, eh bien, merci à vous trois pour cette belle présentation du livre du Salon du Livre de Jeunesse. Pour donner les éléments très pratiques, hein, c'est donc samedi 18 octobre et dimanche 19 octobre 2014 au Cadran à Évreux. Les portes s'ouvrent à 10h et se referment à 18h. Une entrée libre, gratuite, comme le précisait Annie Falzini. Et vous pourrez voir, notamment, donc, rencontrer 50 auteurs illustrateurs. Hein, on ne va pas tous les détailler, mais une très belle affiche, hein, je trouve, hein, pour cette cinquième édition.
Affiche réalisée par Martine Bourg. Hein, l'affiche, pas ce... Voilà.
Oui, le visuel de l'affiche, l'illustration de l'affiche, tout à fait. Alors, dans les spectacles, notamment, vous pourrez voir Bulle et Bob dans la cuisine, raconté par Nathalie Tual, qui est quand même un nom, je dirais aussi, dans le livre conté et enregistré. Vous aurez aussi, pour les 3-6 ans, Les Racontés, qui est donc des séances d'animation hein, autour de l'exposition Raconte-Tapis, à partir de 17h. Dans la grande salle, le samedi 18 octobre, à 14h30, Moby Dick, donc spectacle de Fabrice Melchior proposé par la scène nationale Évreux-Louviers. Le dimanche, à 10h30 et 16h30, Voyage au pays des Lumières. Et dans la grande salle, à 14h30, La Baba Yaga par la compagnie Carabistouille. Voilà pour les éléments très concrets et pratiques pour vous y rendre.
Eh ben merci à vous d'être passé par nos micros. Avant de nous quitter, nous avons une tradition dans Scène de vie, vie de scène, c'est que nous demandons à nos invités de venir avec la pause musicale qui suit l'échange. C'est Antoine Joulier qui s'y est collé pour cet échange. Antoine, est-ce que vous pouvez nous parler du titre que vous nous avez sélectionné ?
Alors, j'ai choisi le titre « Sleep » de Marianne Faithfull, issu de l'album « Secret Life », qui est sorti en 1995. J'aime beaucoup ce titre, ça me renvoie à des films, notamment celui de Patrice Chéreau. Les paroles et la musique sont vraiment en osmose. Voilà, et puis Marianne Faithfull, j'aime ce personnage assez trash qui a plusieurs dizaines d'années de carrière et qui sort récemment, qui a sorti là cette semaine un album que je n'ai pas encore écouté. Mais Sleep, c'est très très beau.
J'imagine qu'on peut le retrouver dans les rayons de la médiathèque.
It is strange to sleep alone in a place no one knows, strange to shelter under stones, in a place water flows. It is safe to walk with me, where you can read the sky and stars. Safe to walk upon the sea, in my sea. We can go far.
Bonjour Steph, vous faites partie de la compagnie Circo Ripopulo et nous allons vous découvrir et vous accueillir à Huée ce week-end avec un spectacle qui s'appelle Arovecchio et dans lequel vous incarnez Giancarlo. Est-ce que vous pouvez, avant toute chose, vous présenter, en fait, nous parler de ce spectacle et de la compagnie?
Oui, merci, bien sûr. Alors, Circo Ripopulo, c'est une compagnie du Belgique. Nous habitons en Anvers et à Hasselt. Et nous jouons dans l'atmosphère de clowns et de comédie, mais toujours avec le respect pour la commedia dell'arte d'Italia. Mmh. Alors, le nom Circo Ripopulo, ça c'est aussi un nom italien. Et ça veut dire repopolare, repopuler le cirque. En Belgique, les cirques classiques, on a beaucoup de problèmes parce que dans un chapiteau de 500 personnes, sur un dimanche, et aussi quand ça pluie, il y a, je pense, 30-40 personnes dedans. Et ça, c'est dur pour les artistes pour jouer pour 30 personnes, 30 tribunes, 500 personnes, c'est possible. Et nous avons pensé à ce moment, mais pourquoi pas jouer dans un chapiteau qui est plus petit. Alors, notre premier spectacle, ça s'appelle Fazzoletto. Et c'est un spectacle pour 20 personnes dans le petit chapiteau. Aussi, toujours avec le respect pour le clownerie, ça c'est un petit spectacle avec des marionnettes. Et nous faisons dedans trapèze, canon humain, etc. Et Arovecchio, le spectacle à Évreux, ça s'appelle Arovecchio, alors. Et ça veut dire, il y a un spectacle pour 100 personnes, presque 100 personnes, et il y a un chapiteau pour 20 personnes. Et ça, c'est un grand problème pour les deux clowns, parce qu'il y a un problème, le chapiteau est trop petit. Il y en a trop de public. Et voilà, ça, c'est le jeu pour les deux clowns.
D'accord. Donc, en fait, vous accueillez le public qui ne va pas pouvoir rentrer dans le grand chapiteau, si je comprends bien.
Alors, nous avons un petit secret. Alors, nous ouvrons le chapiteau. c'est une petite guerre entre les deux clones parce que c'est le faux de l'un et pas de l'autre. Et l'autre dit, ok, on va ouvrir le chapiteau, 20 personnes dedans et 80 personnes restent à l'extérieur avec l'autre clone.
D'accord.
Et voilà, et maintenant. Et dans la comédie de l'art, nous trouvons une solution pour la public. Mais en même temps, le spectacle dans le chapiteau a fini et le deuxième problème pour les deux clones s'installe. Et ils sont très inventifs pour trouver des solutions pour ce problème, mais des solutions ne sont pas toujours très justes, aussi dans la clonesque.
D'accord.
Vous êtes
très clair.
Vous allez être programmé, du coup, comme disait Cécile à Hué, dans le cadre d'une programmation de proximité. Dans ce que vous nous disiez, il y a une proximité également avec le public. Comment est-ce que vous appréhendez ce lien entre le public et les clowns? Comment est-ce que c'est travaillé?
Alors, nous travaillons presque sans mots. C'est pas le mime comme tu connais le mime. Nous utilisons presque pas de mots et nous parlons avec des émotions au public. Qu'est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que nous jouons de Portugal jusqu'en Norvège? Parce que nous ne parlons pas beaucoup et l'histoire est très claire dans les yeux des clowns.
Et du coup, la proximité, parce que vous êtes très proche, très très proche du public dans le cadre de ce petit chapiteau et de ce spectacle-là.
Oui.
Quand on est comédien, quand on est clown, comment on le gère, ça, d'être aussi proche du public, parce qu'on peut presque vous toucher?
Oui, ça touche beaucoup. Nous avons toujours joué dans la rue. Avec 400-500 personnes, avec une distance de 10-12 mètres toujours. Tu connais le principe des clones dans la rue. Et maintenant, la public est à peu près de, je pense que 2 mètres. Dans le chapiteau, c'est 1 mètre et demi. À partir de la proximité, est très, 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 très juste. Et ça donne des émotions qui sont vraies, qui sont bonnes, qui sont là pour la public. Le riz, mais aussi les problèmes des deux clones, c'est toujours très, très, très proche du public. Mmh. Et aussi, bien sûr, pour jouer, hein, ça donne beaucoup des émotions et le riz de la public, c'est très, très, très proche. Et pour ça, nous choisissons de jouer pour un maximum de 90 à 100 personnes.
Et j'ai l'impression aussi que dans votre spectacle, l'objet, le bois est extrêmement présent. Vous n'êtes pas que tout seul. Le chapiteau est aussi un personnage et son intérieur.
Oui, le chapiteau est très, très important pour installer le problème pour les deux clones parce que le chapiteau est rétréci, est trop petit pour tout le public. Deux, c'est un très très beau décor. Et qu'est-ce que je veux dire encore pour la public et toi pour installer bien sûr pour installer le problème des deux clones. Les deux clones commencent comme comment tu dis ça en français, des hommes d'écurie.
Oui.
Notre personnage de Gabriele et Giancarlo sont deux hommes d'écurie. Ils travaillent pour le cirque. Ils ne sont pas des artistes
d'accord.
À ce moment. Et une fois, si le spectacle arrive, le problème est installé, ils changent de chercher une solution pour les problèmes, mais ça commence d'être clonesque, etc. Et bien voilà, après 10 minutes, c'est clair, les deux hommes d'écurie, ce sont les deux clones du cirque, voilà.
Se transforme.
C'est un chaos orchestré.
Bah écoutez, merci beaucoup, Steph. On découvrira donc à Rovescio ce week-end à Hué, samedi et dimanche. Samedi pour deux représentations à 14h et à 18h et dimanche à 16h.
Oui, c'est juste.
Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps.
Voilà, bienvenue pour tout.
Merci.
très bientôt.
Merci beaucoup, ciao, ciao. À très bien, merci, ciao.
Let your mind be at peace. 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 Peace.
Sometimes, extrait eh bien, du double album qui sort tout juste aujourd'hui, Phonovisions.
On va le faire en français.
Voilà, très directement. Voilà, double album et un DVD qui sortent tout juste aujourd'hui. C'est extrait du projet avec l'Orchestre Symphonique de Lille. Nous le disions en sommaire de cette émission, Cécile, tu as été, nous avons été traîner notre micro dans une classe de CM2 de l'école Victor Hugo.
Oui, c'est ça, à Évreux, donc en centre-ville d'Évreux. Nous sommes allés à la rencontre de ces 20 élèves, je crois, ils étaient une vingtaine, parce que en fait, ils ont eu le privilège d'assister en toute avant-première à la présentation d'une étape de travail de la compagnie Trace, dirigée par Jefferson Desmoulins, qui était en résidence en fait à la Scène nationale pendant une quinzaine de jours pour leur prochain spectacle, leur prochaine création jeune public. Et puis, comme on était sur la thématique des enfants et des créations pour le jeune public. Ce mois-ci dans Scène de vie, on a eu envie en fait de donner la parole à ces enfants et puis de leur demander de s'exprimer autour de ce spectacle qui s'appelait donc Du temps que les arbres parlaient d'Yves Lebeau et qui a été mis en scène par Jefferson Desmoulins.
Eh bien, nous écoutons les réactions des élèves.
Du temps que les arbres parlaient.
C'est un garçon de 12 ans qui arrive et qui essaye de communiquer avec l'arbre. Et il tourne autour de l'arbre, et puis à un moment, il glisse. Et après il voit le chêne qui sort, et là, il communique entre eux. Et après, l'arbre, il se lève en grognant parce qu'il l'a réveillé. Et il dit « J'ai un problème, ma mère, elle me sert le petit déjeuner et elle va direct dans la salle de bain. » Il y a le père du petit garçon qui cherchait sa trompette partout et du coup, il est parti, il a fouillé partout sauf son fils et parce qu'il était en boule avec la trompette dans son manteau. Et puis, à un moment, il a découvert que la trompette, c'était pas vraiment de l'or. Et il l'a découvert parce que grâce à l'orage.
C'est que à la fin, il se déshabille et il veut rentrer dans l'arbre parce qu'il se sent mieux avec l'arbre. Il rentre dans l'arbre et et après, il ressort et il tourne. Et il y a l'arbre qui dit, il y a une robe qui arrive et l'enfant croit que c'est une fille, donc il se rhabille vite fait et il dit quand est-ce qu'elle arrive pour faire la rencontre. Et après l'arbre il fait des gestes comme si qu'il parlait à la fille.
Et quand il était dans l'arbre, il n'arrivait plus trop à bien respirer. Et à un moment donné, il s'est aperçu que, à la fin, il s'est aperçu que la vie, c'était bien. Et qu'en fait, à la fin, il était content d'être resté en vie.
Ce que j'ai aimé, c'est quand en fait, on ne savait pas c'était quoi son but au début.
J'ai bien aimé quand il y avait les étoiles. J'ai pas aimé quand il fonçait dans l'arbre et qu'il criait un moment.
Moi, j'ai bien aimé quand l'homme il a jeté des glances sur l'arbre.
Moi, j'ai aimé la partie quand il disait des gros mots. J'ai aimé quand il faisait les origamis, parce que c'était très beau.
J'ai bien aimé quand l'arbre a adopté le jeune homme, parce que le jeune homme avait quelqu'un avec qui parler.
J'ai bien aimé quand il y avait du soleil et il y avait des bruits d'oiseaux.
J'ai bien aimé la forme de l'histoire. Je trouvais que les acteurs, ils étaient bien. Enfin, ils jouaient bien. Et puis, j'ai pas aimé grand-chose.
Je n'ai pas aimé quand le jeune homme se cognait contre l'arbre.
J'ai bien aimé les oiseaux en papier quand ils jouaient avec.
Moi, j'ai bien aimé quand il y avait l'orage, ça faisait beaucoup de bruit.
Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il y avait les effets spéciaux, déjà.
J'ai pas aimé quand il était dans l'arbre parce que il s'était fait piquer les fesses avec des épines. Et c'est tout.
J'ai bien aimé quand il était prisonnier dans l'arbre et j'ai aimé un peu tout.
Et ce que j'ai pas aimé, c'est quand il disait les gros mots.
Moi, en fait, ça m'a rendu triste parce qu'il voulait disparaître. Alors du coup, je me disais que c'était pas trop... ça m'a rendu triste, quoi.
Moi, j'ai bien aimé la rencontre avec le metteur en scène et poser des questions avec le comédien et qu'il nous réponde.
Eh bien, moi, j'étais assez contente que pour une fois, ils viennent nous parler. Puis, c'était bien.
C'était la première fois où on rencontrait un metteur en scène et
les comédiens et ils nous ont posé des questions, que d'habitude c'est les enfants qui posaient les questions. Et les questions, ils étaient bien.
En fait, on est les premiers spectateurs à regarder leur première pièce de théâtre, parce que c'est la première fois qu'ils font la pièce de théâtre. Et ben voilà, c'est bon, c'est tout.
Pour moi et les autres, je pense que c'était assez bizarre qu'on soit les cobayes, mais en tout cas pour moi, ils ont bien joué leur rôle, c'était impressionnant, ils n'étaient pas timides, enfin. On a posé des questions, ils nous ont posé des questions, on a tous répondu aux questions, ça m'a fait aussi bizarre de voir le metteur en scène.
C'est nous qui répondons à leurs questions, alors que d'habitude, c'est les comédiens qui répondent à nos questions.
Ils nous ont posé des questions, sûrement pour savoir s'il y avait des choses à améliorer dans leurs pièces au moment où on les regardait, et pour savoir si c'était bien ou pas bien, s'il fallait qu'ils améliorent des choses et choses comme ça.
Le jeune homme qui jouait, je trouve que c'était bien parce qu'il regardait devant lui, parce que moi, à sa place, j'aurais dû autant regarder le public et s'ils étaient contents ou pas, ils étaient impressionnés ou pas. C'est parce que après, je pensais qu'il allait faire ça et tout en regarder le public, mais en fait, non, il regardait tout le temps l'autre comédien quand il voulait le parler.
Moi, c'était bien parce que ça m'intéressait de savoir ce que pensait le réalisateur et ceux qui y jouaient.
On a remarqué que les acteurs, ils disaient beaucoup de gros mots parce que c'est une pièce pour les adultes.
Moi, je comprends pas pourquoi les comédiens, ils sont aussi jeunes pour commencer le théâtre, en fait. Et voilà. Joyfully, oh, playfully, watching me.
Oui, nous écoutions Logical Song, Supertramp, 1979, dans l'album, le fameux album Breakfast in America. Alors oui, c'est vrai, c'était mon petit coup de cœur, puisque je l'ai découvert là aussi à sa sortie, quand j'avais 7 ans, en direct. Les frères aînés avaient ça sous le bras, ils sont arrivés le jour de la sortie, et là c'était l'album 33 Tours, et ça a été un grand moment musical, familial. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil de mon revival années 80.
Eh ben c'était avec plaisir, Nathalie.
Eh bien, l'émission touche quasiment à sa fin. Il nous reste à vous parler de l'agenda de ce mois d'octobre. Cécile, je vois que tu as plein de choses en main.
Oui, toujours plein de choses en main pour l'agenda. Donc, on vous a parlé, pardon, des escapades qui font halte ce week-end à Huée le samedi prochain, donc le 4, à 14h et 18h, pardon, et dimanche 5. À 16h, à Huée pour Arrovecchio avec le Circo Ripopulo. On les retrouvera, pour ceux qui auraient loupé Huée, mardi 7 et mercredi 8 à Aviron, à la salle des fêtes d'Aviron.
Réservez vos places hein, à la scène nationale, c'est vraiment conseillé, même
conseillé,
même impératif.
Ouais, exactement. si on continue du coup dans la temporalité... L'ouverture de saison de la scène nationale, qui aura lieu le samedi 11 octobre avec un super spectacle, et là je le dis sans peser mes mots, Pépé les petits cailloux. Donc le 11 octobre à 17h, venez nombreux, venez découvrir cette conteuse qui est exceptionnelle et qui s'appelle Annabelle Sergent, Molière quand même, du meilleur spectacle jeune public en 2011. Faut pas rater ça, voilà. Et puis ça se poursuivra, on la retrouvera à Louviers après pour les auditeurs lovériens qui nous entendent. On la retrouvera à Louviers le mercredi et le samedi suivant. Alors j'ai plus les dates en tête, hein, mais...
Alors mercredi voilà. 15 octobre à 15h et puis le vendredi 17 octobre à 19h30 au Théâtre du Grand Forum à Louviers.
Merci Nat.
Moi, je ne vais pas rester dans la temporalité, mais je vais rester sur le lieu. Nous restons à Louviers, car le vendredi 10 et le samedi 11 se déroulent à la Gare aux Musiques de Louviers, ce qu'ils appellent les pop-up parties. C'est les sorties de résidence de l'année. Cette année, 4 groupes étaient en résidence sur la Gare aux Musiques, ce qui leur a permis de travailler la composition, l'enregistrement, la scénographie, enfin un tas d'éléments en fonction de leurs besoins. Et il y a les concerts de sortie de résidence. Le vendredi 10 octobre, Electro Transmission et Jod. Le samedi 11, Cyrus Minor et Bengal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Gare aux Musiques pour ces deux soirées qui sont des sorties de résidence.
Et je crois que vous pouvez tourner le bouton de votre petit poste parce que Principe Actif sera présent sur ces deux soirées de restitution de résidence.
Exactement, vous pourrez les vivre en direct, mais le mieux pour la musique vivante, c'est d'aller sur place.
C'est d'aller sur place, on est bien d'accord.
Et puis bien sûr, nous en avons longuement parlé avec nos invités, hein, le 5e salon du livre jeunesse d'Évreux, samedi 18 et dimanche 19 octobre au Cadran.
Et puis on fait un grand saut dans le temps, parce que ce sera tout début novembre, mais je voulais vraiment vous en parler. Cirque Ombrage par la compagnie Au Clair de Plume. Au Clair de Plume, pour ceux qui s'en rappellent, c'est Lousse l'Enfant Bulle. Eh bien voilà, ils reviennent avec leur nouvelle création qui s'appelle Cirque Ombrage, qui fait une nouvelle fois la part belle à la musique, mais pas que, puisque cette fois-ci, il y a une danseuse sur le plateau, il y a des contorsionnistes, il y en a partout, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les yeux. C'est un beau rendez-vous début novembre, le 4 exactement, à Louviers, au Théâtre du Grand Forum.
Voilà pour ce choix non exhaustif hein, des sorties et des spectacles sur le mois d'octobre.
Nous vous donnons rendez-vous le 7 novembre pour le numéro de novembre de Scène de vie, vie de scène. D'ici là, bah, on vous souhaite un bon mois de sortie.
Oui, et puis...
Soyez curieux. Allez vous promener et
lisez les livres de jeunesse, allez découvrir les auteurs.
Exactement. Et nous vous laissons avec l'extrait de sonore de film en général, mais cette fois-ci, c'est une série. Un petit mot sur ce que vous allez écouter en sortie d'émission. C'est un extrait de la série Le Petit Quinquin, diffusé il y a une quinzaine de jours sur Arte. Une sortie DVD sûrement programmée. C'est une série en 4 épisodes de Bruno Dumont. Et là, c'est vraiment, on est dans un univers très particulier. Ça se passe dans le nord.
Boulogne-sur-Mer, les plages de Boulogne-sur-Mer.
Voilà. Et voilà, la série est autour d'un polar burlesque. Je crois qu'on ne peut pas mieux le définir que polar burlesque.
Je pense que si vous n'aimez pas les séries américaines, vous aimerez Le Petit Quinquin. Par contre, si vous aimez les séries américaines, je ne sais pas si vous allez l'aimer à découvrir.
C'est autre chose en tout cas. On vous souhaite un bon mois.
Merci.
Bon mois de sortie.
Bon mois de sortie. Au revoir.
Au revoir.
Vous voyez, mon commandant, ce que je vous ai dit. Cette bête n'a pas pu arriver là toute seule. Il n'y a pas d'accès. Il y a des ouvertures, mais ils sont inaccessibles pour elle.
C'est du sang humain dans la vache, mon commandant.
Que vous dites ? Il y a du sang humain dans la bête ?
C'est du sang humain dans la vache, mon commandant.
Vous êtes sûr ?
On est où, là ? La bête humaine, c'est du zoo, là, mon commandant. C'est du zoo, là.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. C'est incroyable.